Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Soyez dans la joie. Nous célébrons aujourd'hui, comme vous le savez, l'un des deux moments de l'année, l'un des deux dimanches de l'année, dont l'introïde commence par cette exhortation, être dans la joie. Une exhortation qui ressemble même à un ordre formel. C'est assez étrange qu'on donne l'ordre d'être dans la joie. Il y a le dimanche de l'étaré qui vient adoucir quelque peu le carême, qui arrive à la mi-carême, et puis il y a le dimanche d'aujourd'hui, c'est-à-dire celui du Gaudete, que nous fêtons non pas à la mi-avant, mais aux trois quarts de l'avant. Autant d'occasion pour nous de méditer quelques instants sur ce que doit être, ou ce que devrait être la joie chrétienne, et qui devrait être en fait la caractéristique par excellence des chrétiens. Parce qu'on a coutume de dire, comme vous le savez bien, qu'un saint triste est un triste saint. Alors quelle est cette joie, au juste, dont nous parle saint Paul? Quelle est cette joie à laquelle nous exhorte la liturgie d'aujourd'hui? La joie chrétienne, évidemment, n'a rien à voir avec cette espèce d'ordre qui nous est intimé dans notre bonne société, un grand renfort de slogans publicitaires, tandis qu'approche Noël et le jour de l'an, de faire plaisir. Se faire plaisir en faisant plaisir. J'ai vu ça sur un panneau publicitaire, moi ça mérite d'être clair, voilà. Il faut d'abord penser à sa pomme. 10 conseils pour faire de votre réveillon, encore un autre slogan que j'ai glané au hasard, un grand moment. Voilà, réveillon doit être un grand moment, lequel, Dieu le sait. Sans alcool, la fête est plus folle. Là, c'est pour la petite note un peu citoyenne, vous voyez, être dans la joie, mais tout de même, bon. Alors qu'on ne s'y trompe pas, cette joie est factice, bien sûr, et le fait d'employer désormais le pluriel, hein, vous le savez, on ne parle plus de la fête de Noël, on parle des fêtes de fin d'année, on ne parle plus du réveillon de Noël, on parle des réveillons, voilà, fête des réveillons. Le fait donc d'employer le pluriel n'y changera rien, en matière de joie comme dans bien d'autres matières, on ne compense pas le manque de qualité par une augmentation de la quantité. La joie dont parle saint Paul et à laquelle nous exhorte l'Église d'aujourd'hui n'a pas non plus grand-chose à voir avec la gaie attitude dont on nous rebat les oreilles aujourd'hui. Avouez que c'est quand même un rictus du démon. Parler de gaieté, parler de joie en réalité en anglais, pour qualifier ce qui est une déviance malheureuse, je ne juge pas les homosexuels, je juge de la déviance. Je dis que là n'est évidemment pas la joie, là n'est pas la plénitude de notre condition humaine, ça saute aux yeux. Mais on aimerait imposer cette gay-attitude au plan juridique dans notre société, voilà, en nous présentant la communauté gay, comme on dit maintenant, sous des dehors sympathiques et une prétendue joie de vivre, qui éclate de manière assez paradoxale sur les charges de la gay pride. Est-ce que c'est vraiment de la joie? Je ne sais pas. Je laisse à chacun la possibilité de jauger. Voilà, pour bien comprendre de quelle joie l'Église nous parle aujourd'hui et de quelle joie saint Paul nous parle dans son épître aux Philippiens, il faut, je crois, considérer le terme de gaudete, qui ouvre l'introïde d'aujourd'hui. Ce terme est tiré des Philippiens. Et ce terme-là, si l'on s'en tient à sa traduction française, soyez dans la joie, ne permet pas, je veux dire, cette traduction française ne nous permet pas de saisir la plénitude de l'intention de l'apôtre. Voyez? Ce terme utilisé en grec, c'est kaine. Voilà, je suis désolé de temps en temps de revenir à ces racines grecques, ça fait peut-être un peu pédant, je vous assure que telle n'est pas mon intention. Quand on regarde les termes originels, on comprend mieux la portée de l'écriture et l'intention de l'écrivain sacré. Kaere, c'est un mot qui est très proche, parce qu'il a la même racine, qu'un autre terme grec, charis. Charis, c'est la grâce, et c'est la grâce surnaturelle. Autrement dit, le type de joie dont on nous parle aujourd'hui, c'est une joie qui a quelque chose à voir avec la grâce de Dieu. C'est ce terme de charis, celui qui est employé dans l'Ancien Testament, par le prophète Sophonie. Le prophète Sophonie, il exhorte Israël, qu'il appelle la fille de Sion, à être dans la joie. Pourquoi? Parce que le Messie va venir. Sophonie avait cette conviction très prégnante que le Messie désormais n'allait plus tarder. C'est quelques siècles avant Jésus-Christ, mais pour un peuple qui commençait à trouver le temps long, à s'avachir, et cela va aller encore de mal en pis jusqu'à Jésus, eh bien Sophonie veut réveiller ce peuple en lui disant cette fameuse phrase que vous connaissez comme moi, « Réjouis-toi, Kaïné, et ensuite triomphe de tout ton cœur, fille de Sion. » Vous voyez de quelle joie il s'agit. C'est pas la petite joie, au fond, c'est C'est une joie puissante. C'est la joie qui est liée à la venue du Messie. C'est ce même terme de kaere qui est employé par l'ange Gabriel le jour de l'Annonciation. Quand il vient devant la Vierge, il lui dit « Salut », ils sont en français en tout cas, mais le grec est « Réjouis-toi, exulte de joie, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi », etc. Vous voyez que saint Paul, qui connaît parfaitement l'Écriture et qui a entendu le témoignage de la Vierge Marie quant à l'Annonciation, saint Paul sait précisément dans quelle optique il emploie ce terme de « kaere ». Rien n'est laissé au hasard, comme je vous le dis souvent dans l'Écriture. Et s'il emploie ici le terme de kaere, et si l'Église nous demande aujourd'hui d'être dans les dispositions de kaere, voyez, c'est pour nous faire comprendre qu'il faut être dans une joie liée à la venue du Messie. Il faut en gros qu'aujourd'hui, là tout de suite, habite dans notre cœur les mêmes dispositions que le peuple élu lorsqu'il attendait vaillamment le Messie. Il faut être dans les mêmes dispositions que la Vierge Marie au moment où elle apprend qu'elle va être la mère du Sauveur. Voyez la puissance de cette joie dont on demande qu'elle vienne habiter en nous. Voyez, la joie qui doit s'emparer de nous, aujourd'hui, n'est pas quelconque. Elle nous est accordée d'en haut. Et elle est motivée par quoi? Une dernière fois, je vous le dis, par Jésus, le Sauveur. Nous allons être déliés par le truchement de la liturgie. Nous allons être déliés, comme jadis, comme il y a 2000 ans, de nos péchés. Parce que le Verbe va prendre chair dans le sein de la Vierge Marie, et nous contemplerons cela dans la parole de Dieu, à la crèche et à l'Eucharistie. Vous voyez qu'il faut nous souhaiter. Nous sommes à une semaine de Noël, et nous n'en pouvons plus d'une vie cyclique, d'une vie Christus, avec un temps qui va, peu importe. Ce que nous demande l'apôtre, ce que nous ordonne l'Église, c'est de bien considérer le mystère qui va se passer, le mystère de notre délivrance. C'est ça qui doit nous mettre dans la joie. Vous voyez, il faut nous rendre compte que quelque chose de la joie du ciel nous est communiqué. Quelque chose de la joie du ciel. Je dis bien quelque chose, parce que cette joie plénière, sans doute, elle est pour demain. Évidemment, cette joie sans aucune trace d'inquiétude, parce que nous serons dans la possession du bien même pour lequel nous avons été faits. Dieu, que voulez-vous avoir quelques sentiments néfastes ou avoir quelques inquiétude si vous êtes en possession du souverain bien. Il n'y a plus de place pour l'inquiétude. Sur cette basse terre, malheureusement, notre joie est mêlée, bien sûr, à la tristesse. À quoi est liée cette tristesse? Pourquoi cette tristesse qui se mêle à la joie chrétienne? Et nous l'expérimentons tous les jours. Notre joie n'est pas plénière, bien sûr. Je ne vois pas en vous des visages de ressuscité. Vous ne voyez pas sur le mien. Malgré tous les efforts que je fais, une tête de celui qui est face à face avec son Dieu, bien sûr. Mais nous avons une joie mitigée. Pourquoi? Chez les contemporains de Jésus, cette joie était mitigée parce qu'ils avaient devant eux, certes, le Sauveur, qui faisait des miracles, qui leur enseignait la vérité, qui les délivrait, qui les soulageait de leurs joues, et en même temps, ce Sauveur était dans un corps humain, avec une âme mère. Et sans cesse, il semblait en proie à des dangers immédiats de mort. Vous voyez, c'était une sorte de flamme vacillante aux yeux de ses contemporains, et ils craignaient pour la vie de leur mère. Comme Saint-Pierre a craint, comme les apôtres lui ont dit de ne pas aller à Jérusalem pour la dernière fois, surtout pas, parce qu'il voulait le lapider, les Juifs. Vous voyez, cette crainte-là, cette tristesse qui est mêlée à cette joie dans le cœur des apôtres. Chez nous, 2000 ans plus tard, nous qui pourtant avons la certitude, parce que nous connaissons la fin de l'histoire, nous qui avons la certitude que Jésus est sorti vainqueur du mal et vainqueur du monde, eh bien, nous avons une tristesse mêlée à notre joie, parce que le Seigneur peine à trouver sa place chez nous. Pas seulement dans le monde qui nous entoure, là c'est officiel, mais dans nous, ça c'est davantage officieux. Derrière notre confession publique de foi chrétienne, quelle place laissons-nous au Sauveur? Et nous sommes comme l'enjeu de deux lois contradictoires, celle de la grâce qui nous habite, qui nous fait tendre vers le bien, qui nous fait aimer les choses du ciel, et en même temps cette bonne vieille loi du péché qui nous impure sur nous-mêmes et qui lutte contre la loi du ciel. C'est cela qui fait notre tristesse. À chaque fois que vous allez vous confesser, certains d'entre vous pleurent lorsqu'il se confesse, parce qu'ils constatent, comme saint Paul, ce ne sont pas des larmes de crocodile, je le sais, ils constatent comme saint Paul qu'ils font tout le mal qu'ils ne voudraient pas et qu'ils ne font pas tout le bien qu'ils voudraient. Tristesse donc, parce que notre joie d'être chrétien, notre joie d'être habité par la grâce, d'avoir été délivré du péché par Jésus, coexiste avec le péché lui-même. et que le bon grain est livré, comme nous l'avons dit et redit ces dernières semaines, avec des paraboles qui étaient bien et bien, régneront ce mélange-là jusqu'à la fin. Il faudra attendre le ciel pour être enfin dans la joie plénière. Vous voyez, la couleur des ornements, hein, celle qui devrait normalement être la couleur des ornements d'aujourd'hui, et nous sommes encore trop pauvres, que tu en viendras grâce à vos dons généreux, nous achèterons des ornements roses, vous voyez, pas rochambons, des ornements roses qui seront à la gloire de cette joie, mais le système est de cette joie quand même. Les ornements roses sont significatifs. Pourquoi aujourd'hui, jour de gardiété, pourquoi pendant le carême, jour de l'étarré, l'Église nous demande des ornements roses? Il n'y a pas besoin d'être, je ne sais qui, d'être Van Gogh, d'être le Caravage, un spécialiste de peinture, pour savoir qu'on fait de la peinture rose en mélangeant du blanc et du rouge. Mais c'est significatif. Le blanc, c'est la lumière du ciel, c'est la joie plénière de ce face-à-face avec Dieu. Et le rouge, c'est pourpre. De quoi? Du martyr, du sang versé. Il y a dans l'évangile d'aujourd'hui, je ne parle pas du baptiste, j'en parlerai dimanche prochain, c'est promis, cette grande figure du précurseur. Aujourd'hui, je ne vous parle que de la joie et de comment faire du rose à base de peinture blanche et rouge. C'est déjà pas mal. Cette peinture rose, donc, on mélange du blanc et du rouge. C'est ce qu'on voit dans l'évangile d'aujourd'hui. Le blanc, la lumière, ou plutôt celui qui n'était pas la lumière, mais le serviteur de la lumière, le témoin de la lumière, Saint Jean-Baptiste, est confronté à qui? À des envoyés du temple, c'est-à-dire à ceux qui aimeraient bien faire couler son sang. Comme le dit le Seigneur Jésus, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Vous voyez pourquoi nous ne sommes pas encore dans la joie plénière. Parce que, encore une fois, tant que nous sommes dans ce drame de l'existence terrestre, le blanc se mêle au rouge, pour faire du rose, mais ce rose doit tout de même nous mettre dans la gloire et la croix. Et saint Paul est trop réaliste pour nous faire accroire d'emblée, pour nous faire accroire aux Philippiens, à qui il s'adresse, que ça y est, il leur offre la joie totale du ciel, pas du tout. Il sait mieux que quiconque que nous devons nous contenter sur terre d'une simple participation à la joie du ciel. Nous sommes citoyens du ciel, dit-il. Nous sommes exilés sur terre, dit-il ailleurs. Et nous avons d'ores et déjà les arts, c'est-à-dire un premier virement, les arts de la joie plénière du ciel. Mais mes frères, il faut savoir se satisfaire de ce que nous avons. Et ce que nous avons est puissant. Ce que nous avons est grand. Ce n'est pas parce que notre joie est mêlée de tristesse qu'elle n'est rien. Cette joie, Jésus nous a dit que personne ne pourrait nous la ravir. Et comparer notre joie intime de fêter Noël pauvrement dans une petite étable du fin fond de Tournan-en-Brie, comparer ça avec les fêtes mondaines qui vont avoir lieu dans les salons les plus prestigieux au même moment. Et on s'ennuiera, mes frères, parce que Jésus ne sera pas au cœur de ces fêtes-là, mais l'homme et son nombril et son ventre démesurés. Vous voyez que cette joie, vraiment, doit nous emplir. Et nous devons nous en contenter tant que nous sommes sur cette terre. Cependant, et je finirai par là, saint Paul y assiste à de nombreuses reprises, cette joie, elle est le fruit de nos labeurs. Elle n'est pas seulement le don de Dieu. Cette joie, elle vient de nos efforts. Très souvent, certains d'entre vous viennent me voir, « Monsieur l'abbé, ça ne va pas, je suis triste, je suis bien battu, le monde va à volo, rien ne va plus. » Je suis pénétré de tristesse, tel Jésus à l'agonie. Voilà. Alors, je vous dis, mes frères, que on est joyeux si l'on veut être joyeux. Ça, c'est quelque chose qui est capital. La joie chrétienne, elle est le fruit de la grâce, mais elle est en même temps le fruit de notre coopération. Il ne tient qu'à vous d'être dans la joie si aujourd'hui vous n'y êtes pas encore. Il ne tient qu'à vous de faire des efforts, de demander à Dieu de vous mettre dans cette joie et de commencer par sourire. Vous savez peut-être que Mère Teresa avait pris la résolution, elle avait même fait un vœu privé, ça vous paraîtra peut-être un peu coluche, mais c'est ô combien puissant pour montrer la grandeur d'âme de cette femme, et combien elle avait compris que la joie procédait d'un effort naturel, en même temps que d'un don de Dieu, elle avait pris la résolution de sourire tous les jours de sa vie. Voyez ces 50 ans de vie de la foi. Voyez ces obstacles innombrables sur sa route pour fonder une communauté dans un milieu où à l'époque on envoyait dire des docteurs. Voyez cette battante qui a tous les jours de sa vie ravi ses contemporains par son sourire. Et de Mère Teresa, on garde quoi? Ce visage ensoleillé. ce vieillard sourire. Alors mes frères, nous sommes à une semaine de Noël, peut-être que les impôts pèsent sur vous, peut-être que toutes sortes de tracas domestiques, peut-être que vos collègues vous pèsent, peut-être que votre épouse, votre époux, vos enfants, que sais-je, vous sortent par toutes sortes de trous que vous avez sur le visage, mais mes frères, vous devez être dans la joie. Et Dieu vous la donnera en permanence et il vous la donnera en abondance. Il n'attend que ça, encore faut-il que vous le lui demandiez. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi de suite.